Je transmets tout de suite la parole à la directrice générale de l'enseignement supérieur de l'insertion professionnelle, Simone Bonafous, pour ouvrir ces journées.
Bonjour à tous, merci à vous tous d'être présents. Je pense qu'il y en a qui vont arriver, mais bon, voilà, on n'a pas souhaité annuler cette journée, mais voilà, c'est une journée de grève partielle, en tout cas des transports, donc je pense que ça va continuer à arriver pendant la matinée. Donc, bon, d'abord, vous dire vraiment que c'est pour nous un grand jour, que c'est JPES, au nom, ma foi, pas trop mal trouvé, parce que JIP serait effectivement eu un autre sens, parce qu'il n'y avait jamais eu de journée nationale de l'innovation pédagogique co-organisée par le ministère, les conférences et les différents acteurs de cette innovation. Donc, c'est une première. Ça nous voit un amphithéâtre absolument métamorphosé. Je me suis demandé, j'ai cru qu'on avait mis des boiseries rouges en arrivant, de l'ivoire, je ne sais quoi. Donc, bon, pour moi qui tiens un CNESER ici dans des conditions beaucoup moins chaleureuses, je dois dire que j'espère qu'on va maintenir ce plafond. ça va peut-être transformer le CNESER. En tout cas, c'est une très bonne idée. Donc, je ne sais pas. On va voir avec les services techniques du ministère ce qu'on peut faire. Bravo, en tout cas, pour le décorum. Je l'ai pas souvent vu. Je pense même une première, hein, l'éclairage. Voilà. Et puis, vous remarquerez qu'on a basculé dans l'ère de la modernité, puisque vous avez droit au Wi-Fi. Bon, certes, la dictée que vous avez eue par Marc Guiraud, à mon avis, le rend dans l'immédiat impraticable, mais on va essayer d'améliorer ça et de le dire. Ah bon, d'accord. Parce que là, franchement, c'était un petit peu compliqué. Donc, dans les pochettes, vous n'avez plus qu'à regarder. Mais je vous le dis, c'est quand même un combat, hein, avoir le Wi-Fi dans les locaux du ministère, qui dure depuis longtemps, qui, je pense, était un objet de discussion sur des questions de sécurité ici, mais bon. Comme quand même, on a fini par faire valoir que nos secrets au ministère, dans ce ministère, ne justifiaient peut-être pas qu'on ne prive de Wi-Fi une communauté qui est quand même normalement en première ligne sur les sujets de communication. Nous avons fini par obtenir ce Wi-Fi. Vous remarquerez qu'alors du coup, on est passé au tweet. Maintenant, voilà. Nous avons fait deux grands pas. Alors, deux grands pas aussi, plus sérieusement, parce que effectivement, vous avez été très nombreux à répondre à l'appel. Alors, pour l'instant, vous ne remplissez pas l'amphithéâtre, mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de demandes que de places, puisqu'il y avait 500 candidatures pour ce colloque, enfin 500 inscriptions. Et puis surtout, pour le prix, alors ça, c'est vraiment une nouveauté, on n'a jamais récompensé dans l'enseignement supérieur la qualité et l'innovation et l'excellence pédagogique. Bon, il faut arriver en 2016 pour qu'un secrétaire d'État vienne remettre des prix de l'innovation pédagogique qui vont être déclinés en collectif, individuel. Enfin, il y aura, je laisserai tout à l'heure au secrétaire d'État, c'est le secrétaire d'État, puis Claude Bertrand, hein, que je remercie beaucoup, notre conseiller expert en pédagogie, tous les collègues de la BIPNES qui se sont beaucoup investis. D'avoir organisé ce prix. Hein, ça a été très très bien perçu par le secrétaire d'État et j'espère qu'on va progressivement, effectivement, prendre l'habitude de parler d'excellence pédagogique, hein, comme on parle d'excellence dans la recherche ou dans l'innovation. En tout cas, je pense que c'est quand même une rupture presque conceptuelle dans notre milieu. Donc je m'en réjouis. Je me réjouis aussi de tout ce que nous apportent nos collègues des autres pays européens ou d'Amérique du Nord qui sont ici présents, y compris bien sûr, en partie certains d'entre eux sont dans le jury IDEFI aussi, en tout cas Grace Neville qui est la présidente du jury et qui doit être ici ou qui va arriver, voilà, et qui nous soutient depuis très longtemps, depuis des années, depuis qu'a été créé le jury IDEFI, dans cette marche vers plus d'innovation pédagogique en France et puis peut-être aussi, surtout, plus de visibilité donnée à ce qui se fait. Parce que maintenant, je dois dire que au fur et à mesure que passent les mois, je crois qu'on n'en est plus à chercher l'innovation pédagogique et c'est ça qu'il va falloir aujourd'hui, qui va être un des objets de cette journée, c'est faire savoir diffuser, profiter des expériences des uns pour les autres. Alors, c'est un des challenges que nous avons au ministère, parce que nous sommes bien conscients qu'un ministère de l'enseignement supérieur n'est pas là pour donner des normes de l'innovation et des façons de faire, mais pour faire profiter, amplifier ce qui se fait de mieux dans l'enseignement supérieur. Et pour l'instant, voilà, c'est ce rôle d'amplificateur, de soutien, de stimulation que nous ne savons pas assez encore jouer. Donc nous nous faisons accompagner par le SGMAP pour voir comment nous pouvons, le secrétaire général à la modernisation de l'action publique, comment ce ministère, comme d'autres secteurs de l'État, peut mieux jouer son rôle d'amplificateur des initiatives qui doivent rester les initiatives des acteurs. Et nous n'avons pas de prétention normalisatrice au ministère, même si, bien sûr, il y a par ailleurs des critères de qualité que nous avons installés dans le dossier d'accréditation pour les diplômes, que sont le souci de l'insertion professionnelle, l'évaluation par les étudiants. Enfin, il y a bien sûr quand même des critères que nous partageons avec la HCRS. Mais ensuite, le comment faire, le comment se déroule un enseignement, comment se déroule l'apprentissage, là, voilà, nous estimons que nous n'avons pas à édicter d'obligations pour notre milieu qui doit rester innovant, ce qui signifie libre. Voilà les mots de la fin. Je passe la parole, pour moi, j'entends, ce n'est que le début pour vous, et je passe la parole à la conférence des présidents de l'université.
Merci, Madame la Directrice Générale. Tout d'abord, je tiens à excuser Jean-Loup Salzman, président de la conférence des présidents d'université, qui aurait bien aimé être présent aujourd'hui parce que la pédagogie et les questions d'innovation lui tiennent à cœur. Et donc, voilà, vous n'avez droit qu'au président de la commission formation et insertion professionnelle aujourd'hui pour représenter la CPU. Donc, d'abord, remercier le ministère d'avoir organisé ces journées, parce que c'est vrai que c'est vous qui êtes à l'initiative de ces journées et que vous ayez pensé à associer la CPU, la CDFI, bien sûr. On est très heureux d'être aux côtés de la CDFI, bien sûr, de l'ANR aujourd'hui. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que, et Simone l'a déjà dit, c'est toujours difficile de passer après Simone, parce qu'elle dit beaucoup de choses intéressantes, et donc que le ministère ait mis comme priorité la pédagogie, c'est je trouve que c'est un point qui est important. Dans les années passées, la pédagogie n'avait pas toujours été mise en avant. Là, on voit, et on l'a vu par les programmes IDEFI aussi en amont, les IDEFI numériques. Et puis, d'après ce que j'ai compris, il y a eu des annonces autour du PIA3 aussi qui montrent que cette dimension-là est à nouveau mise en avant. Et ça, je ne peux que le saluer. Et les universités le saluent également. Voilà, comme Simone, moi, ayant participé à la fois au comité d'organisation et au jury PEPS, moi j'ai été extrêmement heureux de constater l'attractivité de ces journées et surtout le nombre de candidatures de qualité, parce que voilà, on pourrait dire il y a des candidatures, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont bonnes. Quand on a dû, et moi j'avais qu'une partie des dossiers à regarder. Il y avait 300 dossiers, j'ai eu qu'une partie des dossiers à regarder. C'est vrai que c'était très difficile de faire un choix dans ces dossiers. Donc ça, c'est vraiment une découverte. Ça a été une découverte pour moi et vraiment, je trouve ça très, très positif parce que ça montre qu'il y a énormément de choses qui se font déjà dans nos établissements, quel que soit le type d'établissement, parce que moi, je parle au nom des universités, mais il y a aussi des écoles, voilà, et de tout type. Donc ça, c'est vraiment un point, je trouve, très positif de cette initiative. Donc aujourd'hui, on a vu que cette question de l'innovation pédagogique était très importante. Ce que j'ai constaté également, qui me paraît important, c'est que l'innovation pédagogique, ce n'est pas que le numérique. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à dire pour faire de l'innovation, il faut faire du numérique. Ben non, on a vu que dans les propositions et les remontées qu'on a eues, il n'y a pas que du numérique et que l'innovation, elle passe bien sûr aussi par la dimension numérique parfois, mais sur des questions de locaux, d'organisation des enseignements, sur des questions de relations aux étudiants, des questions d'évaluation, des questions d'accueil du public hétérogène dans les établissements. Voilà. Et donc, il y a une multitude de facettes à cette innovation pédagogique et je pense que ça, c'est aussi important de le noter aujourd'hui. Autre point sur lequel je voulais insister, ça c'est plus pour les universités, c'est que plus que la question de l'innovation pédagogique, en fait, pour moi, ce qui est important, et Simone l'a noté, c'est la transformation pédagogique. Parce que l'innovation, ça se résume souvent à un certain nombre d'acteurs qui font ça de façon ponctuelle, de façon volontaire. Et ce qui est important pour moi, et j'aurais bien aimé peut-être que les journées s'appellent les journées de la transformation pédagogique dans l'enseignement supérieur, plutôt que l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'innovations, et ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt la mise en place de ces innovations et la généralisation dans nos établissements qui est importante pour que, effectivement, nos établissements, comme pour la recherche, voilà, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau de visibilité internationale, la question de la pédagogie, à mon avis, est un critère qui sera très important dans les années à venir pour la visibilité internationale, et donc on doit transformer nos établissements et rendre visible cette transformation dans un établissement. Dernier point que je voulais évoquer, c'est que bon, pour faire cette transformation, il faut une vraie politique dans les universités, en particulier les écoles, hein, bien sûr, pour diffuser cette innovation pédagogique. Et moi, je mettrais un vœu, hein, c'est qu'au-delà des structures type SUP ou qui se développent, ou toute autre forme pour valoriser la pédagogie dans nos établissements, il y a aussi des VP, comme il peut y avoir des VP numériques qui soient mis en place dans les établissements, des VP innovation pédagogique qui permettent justement d'inscrire cette dimension de transformation pédagogique dans nos établissements au-delà des initiatives locales qui peuvent être faites par certains de nos collègues. Voilà. Voilà à peu près le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Puis je vous souhaite à tous de très bonnes journées de l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur.
Merci. Bonjour à tous. De la même façon, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de François Cancel, le président de la Conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs. Et donc, je le représente au titre, comme Gilles d'ailleurs, de ma responsabilité de la commission formation et société au sein de la CDFI, parce que ces problématiques de transformation pédagogique et d'innovation pédagogique sont essentielles et animent profondément le contenu de cette commission. Alors, je me félicite également d'être ici présent à côté aux côtés de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, et à commencer par être celui aux côtés du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Clairement, nous sommes interpellés, Simone Bonafou indiquait comment jouer le rôle d'amplificateur pour les innovations pédagogiques. Il est clair que quelque part, quel que soit le niveau d'autonomie des établissements, le ministère a quand même un rôle de prescripteur, et que dans ce rôle quelque part de prescripteur, quand on met sur un plan équivalent l'excellence pédagogique versus, parce que ceci reviendrait à l'opposé, mais à côté de l'excellence dans la recherche, eh bien, on ne peut que progresser tous ensemble dans cet objectif-là. Je crois que, pour parler de ce que vivent les écoles, leurs cahiers des charges les ont énormément amenés à progresser, parce qu'elles avaient en face d'elles des prescripteurs qui leur imposaient de se poser des problèmes, typiquement en termes de compétences, en termes de professionnalisation, en termes d'apprentissage. Et que ce faisant, c'est confronté à ce genre de questions que se posent les questions de comment on peut transmettre et comment doit-on innover pour pouvoir faire cette transformation pédagogique. Et ça, c'est lié à ce cahier des charges. Et où il est profondément essentiel, c'est pas de dire comment on doit le faire, mais de poser les questions, la direction, et en conséquence de quoi, après ça, c'est de l'autonomie des établissements d'innover et de mettre en place, et là je rejoins pleinement Gilles, d'accompagner au sein des établissements, que ce soit l'université ou les écoles, et d'abord un grand nombre d'écoles sont au sein des universités également, n'ayons pas peur de le rappeler, que ce sont à ce niveau-là que doivent se mettre en place ces politiques d'innovation et de transformation pédagogique. Peut-être le dernier critère également extrêmement important, n'ayons pas peur, mais je crois que c'est dans la culture du système aujourd'hui et c'est parfaitement accepté, de l'évaluation. Il faut que les uns et les autres soyons en permanence évalués, évalués par nos pairs bien évidemment, mais également évalués face au public et par le public que l'on a en face de soi, qui est à même de pouvoir également faire un retour sur ce qu'il vit, sur comment il le vit et comment il l'assimile. Et ce sont bien là tous les enjeux que nous avons les uns et les autres. Il est clair qu'il y a des gens, des acteurs qui ont beaucoup travaillé. Je crois qu'on doit tous être convaincus qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas la solution, il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une recette qui va s'appliquer. Le contexte est suffisamment riche et c'est bien tout l'enjeu que les uns et les autres puissent créer cette transformation et cette innovation pédagogique et après ça puissent la communiquer, l'échanger de telle sorte que, ensemble, nous progressions dans la façon dont nous exerçons notre métier. Voilà. Merci.
Voilà, bonjour à tous. Comme a dit Simone, je pense que vous serez encore plus nombreux dans quelques minutes au fur et à mesure de l'arrivée des transports. Moi, à titre tout à fait personnel, je suis extrêmement heureux de participer à ces toutes premières journées d'innovation pédagogique. Ce qui est peut-être méconnu, je suis président de l'Agence nationale de la recherche, mais je suis un universitaire. Hein ? Je suis un professeur d'université, mais pas que. J'étais aussi dans une école d'ingénieurs, dans une université à Nancy. Je suis un ancien directeur d'école d'ingénieurs et à ce titre, membre de la CDFI à l'époque, également impliqué dans des évolutions pédagogiques dans l'école que j'ai dirigée. Et je peux avoir même des regrets que l'Agence nationale de la recherche ne finance pas plus dans le domaine de la formation. Notre vocation à nous, c'est surtout le financement de nos appels annuels sur les projets de recherche. Et l'État, dans sa grande sagesse, au moment de mettre en place des initiatives autour de l'enseignement supérieur, se disait on va quand même profiter du professionnalisme, de la compétence en appel à projet de l'ANR pour ajouter, dans le cadre de l'activité de l'ANR, qui dans notre activité de base se limite à la recherche, c'est d'ajouter l'enseignement supérieur dans ce que nous faisons pour le programme des investissements d'avenir. Et donc nous sommes, pour le programme des investissements d'avenir, à la fois l'opérateur pour les initiatives en recherche, mais également en enseignement supérieur. À ce titre, je voulais vous dire deux, trois mots sur notre établissement. Nous fêtons cette année les 10 ans de notre création en tant qu'établissement public administratif en 2006. Nous sommes dans le métier de financement des projets. Alors, les projets, c'est quoi ? Les projets, ce sont des choses qu'on fait, qu'on n'aurait pas fait dans le train-train quotidien, mais qui doivent déboucher sur des choses qui permettent de faire évoluer nos connaissances, nos pratiques, nos habitudes. Nous finançons à peu près 1 000 000 de projets par an, mais nous sommes également, et comme j'ai indiqué, le principal opérateur du programme des investissements d'avenir. Nous couvrons tout le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce cadre-là, nous sommes engagés à soutenir de nombreuses initiatives. Alors, on pense immédiatement, et on va en parler beaucoup aujourd'hui, des projets issus des appels IDEFI et IDEFI-N, mais je voudrais signaler aussi qu'il y a une composante formation très forte dans tous les projets d'IDEX. Tous les projets LABEX également ont un volet formation. C'est très important de le souligner parce qu'on l'oublie parfois. Des IRT, des instituts de recherche technologique, et des ITE, des instituts de transition énergétique, ont un volet formation également, en lien en plus avec la sphère socio-économique. Donc tout cela, ça parle de la transmission, du développement des formations, du développement des compétences, c'est essentiel pour nous. Pour revenir aux IDEFI, c'était lancé en 2012, donc nous attendons la fin d'un certain nombre de projets vers les années 2019. Ce sont des démonstrateurs de formation de demain. 36 projets ont été financés dans ce cadre pour un montant de 184 millions d'euros. Et nous avons ajouté l'année dernière un autre programme issu des programmes des investissements d'avenir pour soutenir des formations plus spécifiquement autour du numérique. C'est ce programme IDEFI-N dont vous auriez également sans doute l'occasion de parler avec 12 millions d'euros sur une douzaine de projets qui viennent tout juste de commencer. Alors, dans ce contexte-là, On a effectué récemment, avec la participation du jury, et je voudrais saluer la présence de quelques membres du jury IDEFI. On les aime bien, on les croise tout le temps. Hein. Grace est toujours là, je le disais tout à l'heure, on n'arrête pas de se voir. Les mi-parcours de certains IDEFI, on les a regardés. Il y avait un rapport pour les porteurs sur leur réalisation, mais il y avait également une audition devant le jury. Et on a eu l'occasion d'avoir un retour justement du jury sur ce qu'ils avaient perçu à travers ces auditions. C'était absolument passionnant. Alors j'ai quelques chiffres qui ont été fournis par les services qui suivent ça. Je voudrais saluer aussi la présence de quelques personnes de Lion Air qui suivent ça, les remercier pour leur investissement, pour le travail qu'ils font en collaboration et en appui aux porteurs, et pas contre les porteurs, hein, en appui aux porteurs. Alors, on voit à travers les rapports qui ont été faits à mi-parcours qu'il y a 33 000 apprentis en formation initiale dans ces initiatives, 17 000 apprentis en formation continue dans ces initiatives, environ 3 000 formateurs et tuteurs formés à travers ces initiatives, et plus de 4 000 personnels permanents dans les établissements d'enseignement supérieur qui sont impliqués dans ces initiatives. Alors, c'est pas rien, c'est pas rien. Le jury international a particulièrement apprécié la qualité de ces projets, la dynamique de changement qui était liée à cela, et je ne peux que rejoindre ce que disait Gilles sur le caractère transformateur de tout cela. La pérennisation au-delà de la fin des projets IDEFI est un élément essentiel. Nous souhaitons que ça se poursuive. La création d'un réseau des IDEFI également. Les IDEFI donc, et les IDEFI-N sont bien dans l'esprit du programme des investissements d'avenir. Ce sont des initiatives de moyen-long terme, structurantes, pour la transformation du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Donc le mot transformation est bien là. L'ANR est très fier de participer à ces initiatives. On est fier d'être là avec vous aujourd'hui pour soutenir cette journée. Nous souhaitons donc que ces journées soient l'occasion pour vous de vous rencontrer, d'échanger sur les pratiques, de voir ce qu'on peut faire pour pérenniser la transformation qui est en route. Je n'ai qu'un seul regret, c'est que mon propre emploi du temps ne me permet pas de rester au-delà de la fin de cette phrase. Donc, bonne journée et bon travail à tous.
Marc, juste un petit mot. Bien sûr, je confirme que si le ministère et l'État, je dirais, dans son ensemble, dans un domaine comme l'innovation, ne souhaite pas formater, pour autant, je confirme que l'accréditation est effectivement, avec le refus maintenant du ministère de travailler sur des maquettes et vraiment d'orienter sa validation des diplômes sur des questions de qualité, il donne une orientation. Et je voudrais dire aussi qu'on travaille aujourd'hui dans le cadre de l'agenda social du ministère sur la question de la formation des enseignants, hein, et en particulier des maîtres de conférences. Donc il y a un groupe de travail animé par la DGRH, mais auquel nous participons sur cette question de la formation, parce qu'il est évident, et je terminerai en rebondissant sur ce qu'a dit aussi Gilles Roussel, la question de savoir à quel moment on pourrait intituler ces journées transformation, journées de la transformation. Je n'en sais rien, je ne sais pas quels seraient les critères. Ça supposerait d'avoir une vision globale. En tout cas, je trouve que c'est un beau défi de se dire dans combien de temps on peut, au ministère, passer des journées de l'innovation aux journées de la transformation. Et enfin, effectivement, dire que voilà, il y a les conférences qui sont là pour organiser, les présidents. Donc, et puis l'ANR, et le secrétaire, je pense, le redira, il y a effectivement des moyens importants. Donc c'était pour dire que ce n'est pas parce que l'État ne souhaite pas cadenasser ce qui doit rester libre que pour autant, nous n'avons pas, évidemment, avec différents outils, une palette d'outils, le PIA en fait partie, la volonté d'indiquer effectivement une direction et puis de donner des moyens quand même, parce qu'il y a quand même aussi une question de moyens.
Merci Madame la Directrice pour cette précision.